on commence ce journal avec une découverte en éthologie. Les perroquets gris du Gabon font preuve d'altruisme.
Oui, on savait ces perroquets doués d'intelligence pour résoudre certains problèmes lors d'expérimentation, au point qu'on les surnomme les singes à plumes. Avec les corps vidés, ils font partie des oiseaux aux capacités cognitives les plus développées. Mais alors que les corbeaux et autres corneilles n'ont jamais montré lors d'expériences qu'ils étaient capables d'aider leurs prochains ou d'avoir un quelconque comportement altruiste, les perroquets gris du Gabon viennent de le prouver. C'est ce que rapporte une étude menée par des chercheurs de l'Institut d'ornithologie Max Planck en Allemagne. Dalila Beauvais est enseignante chercheuse au laboratoire Éthologie, Cognition et Développement à l'Université Paris-Nanterre et elle étudie tout particulièrement les perroquets gris du Gabon.
Dans l'étude qui vient de paraître, ils ont la possibilité au départ d'échanger des jetons avec un expérimentateur. Donc le perroquet donne un jeton et l'expérimentateur lui donne un morceau de noix. Ça c'est pas nouveau, on peut entraîner beaucoup d'animaux à faire ce genre de tâches. Et là où ça devient intéressant, c'est quand il y a deux perroquets qui sont côte à côte. L'un a accès au jeton, mais a l'accès vers l'expérimentateur bouché, donc il ne peut pas les donner à l'expérimentateur. Et par contre, il peut donner le jeton à son copain, ou enfin en tout cas au perroquet qui est à côté. Et le perroquet à côté va ensuite donner le jeton à l'expérimentateur, puisque au départ, ce perroquet-là n'avait pas de jeton. Et c'est le perroquet qui a donné le jeton qui reçoit la récompense, donc le morceau de noix. Ce qui fait qu'on a un perroquet qui agit de façon altruiste, puisqu'il va prendre les jetons que lui il a pour les donner à l'autre perroquet sans rien recevoir en retour lui-même. Et tout ceci sans être entraîné à le faire. Ça pourrait être le véritable altruisme tel qu'on l'imagine chez l'humain, c'est-à-dire le fait de vouloir que l'autre reçoive quelque chose, comprendre que l'autre a envie d'avoir la récompense. Et ça semble être en bonne partie en tout cas le cas, puisque ce qu'ils ont observé aussi, c'est qu'ils ont fait varier la relation entre les deux individus. Et quand ce sont deux individus qui ont une relation proche, affiliative, frères et sœurs, etc., le transfert de jetons se fait encore plus. Donc il semble y avoir vraiment une motivation à apporter quelque chose à un congénère avec lequel on a des liens forts. Après, les auteurs de l'article disent que ça pourrait être aussi le fait de montrer qu'on est altruiste, ça pourrait être aussi une façon de se faire valoir. Les perroquets de cette espèce-là sont des perroquets gris du Gabon, en nature, vivent en petits groupes. Ça peut être intéressant pour eux, effectivement, de montrer leur capacité à éventuellement coopérer avec les autres.
Voilà, si vous voulez voir des vidéos de perroquets gris du Gabon en train de se donner de manière altruiste des jetons, eh bien c'est sur le fil Twitter de l'émission où vous avez comme tous les jours des liens vers les études, les articles qui sont cités dans le Journal des Sciences ainsi que dans le reste de l'émission sur le compte @laméthodefc que vous pouvez retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. En bref maintenant Antoine, on a trouvé un continent sous la surface de Mars.
C'est la conclusion à laquelle sont parvenus des planétologues français et américains qui ont constaté, grâce aux données relevées par Curiosity, une anomalie dans les hautes terres de l'hémisphère sud de Mars. Cette anomalie est un bloc crustal, autrement dit une croûte martienne, qui s'étend sur une région une fois et demie plus grande que l'Europe. En certaines régions, cette croûte a une épaisseur dépassant les 50 km et on y relève des anomalies magnétiques et géochimiques identiques à celles observées sur Terre au niveau des cratons continentaux qui sont les zones d'accrétion des microcontinents. Cette étude parue dans Nature Geoscience relance le débat sur les mécanismes de croissance crustale et d'une possible tectonique des plaques sur Mars.
On a retrouvé un morceau de cerveau humain vieux de 2600 ans.
Oui, en 2008, des archéologues britanniques découvraient le crâne d'un homme décapité non loin d'York en Angleterre, à une date comprise entre 673 et 482 ans avant notre ère. Et, surprise, en sondant ce crâne, les chercheurs ont constaté la présence de morceaux de cerveau dont on ignore encore comment ils ont pu être conservés. En effet, après la mort, se produit habituellement ce qu'on appelle l'autolyse, une nécrose tissulaire qui détruit les protéines et les lipides, et cette autolyse est habituellement très rapide pour le cerveau. Selon les chercheurs, l'action des enzymes qui auraient dû dégrader le cerveau a été, je cite, « inhibée par un composé inconnu qui, de l'extérieur, a pénétré dans les structures profondes du cerveau ». Les scientifiques cherchent maintenant à savoir si cette conservation est liée aux conditions d'inhumation, voire à un rite funéraire.
Et on poursuit ce journal avec notre deuxième sujet du jour, en lien avec la thérapie génique basée sur les vecteurs viraux adéno-associés.
Oui, on en parlait dans l'émission que nous consacrions il y a peu à ce sujet. La question des vecteurs est cruciale pour l'efficacité d'un traitement par thérapie génique. Les vecteurs viraux adéno-associés, les AAV, dérivent d'un virus baptisé adénovirus et ont été transformés pour s'adapter aux besoins de la thérapie génique. Au cours du dernier congrès annuel de la Société américaine d'hématologie, une présentation qui n'a pas valeur d'étude étude revue par les pairs, a mis en évidence que chez des chiens atteints d'hémophilie et traités par thérapie génique, les vecteurs viraux adéno-associés intégraient le génome. Or, cette intégration semble favoriser la croissance de certaines cellules, ce qui fait revenir sur le devant de la scène la crainte d'un lien entre traitement par thérapie génique par AAV et l'oncogénèse. Prudence, et surtout pas d'emballement, c'est ce que nous dit Giuseppe Ronziti, responsable d'équipe au Généton et chargé de recherche INSERM.
Il n'y a pas de cancer du tout à identifier dans les chiens. Donc pas de tumeurs dans les chiens. Par contre, ils ont identifié des intégrations dans les génomes de ces chiens. Des intégrations récurrentes dans les génomes. Et donc c'est des intégrations qui sont connues, mais qui jusqu'à présent, ils n'ont pas été associées dans les modèles animaux à la formation de tumeurs. Il y a plusieurs publications qui indiquent que le virus wild type sauvage de l'AAV, il peut s'intégrer dans les génomes, dans des gènes qui peuvent donner un avantage en termes de croissance aux cellules. Ça, ça ne veut pas dire forcément un tumeur. C'est seulement qu'ils peuvent conférer des caractéristiques qui ne sont pas propres à la cellule hépatique, par exemple. Et ça, ça a été rapporté pour le virus sauvage, encore une fois. Pour les virus récombinants, donc pour les virus utilisés en thérapie génique, pour l'instant, ce qu'on connaît, c'est qu'il y a des intégrations. Et dans cet abstract de congrès, il a été rapporté qu'il y a des intégrations dans un modèle animal grand, un grand animal, donc un chien, à long terme. Et surtout que cette intégration, ils peuvent être aussi dans des gènes impliqués dans la prolifération des hépatocytes. Mais dans les données qui ont été présentées, il n'y a pas d'information sur si vraiment ces intégrations, ils confèrent un avantage en termes de croissance aux cellules. Donc s'ils ont un effet fonctionnel. Donc c'est important de surveiller et d'étudier ces phénomènes justement pour établir s'il y a un risque et surtout pour mesurer les risques qu'il y a.
En bref, un espoir pour les personnes qui souffrent de migraines.
Avec l'arrivée peut-être prochaine en France de traitements spécifiques à base d'anticorps monoclonaux anti-CGRP qui tendent à prévenir les crises liées à cette maladie chronique, la maladie neurologique la plus fréquente, classée deuxième maladie la plus invalidante en termes d'années avec perte de productivité. Ces traitements par anticorps monoclonaux qui ont obtenu des autorisations de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe tardent à arriver en France alors qu'ils ont montré leur efficacité, y compris chez des patients en situation d'impasse thérapeutique. Problème, le coût élevé de ces traitements qui atteint entre 600 et 1000 euros par injection.
Et coucou, revoilà le bug de l'an 2000.
Avec le passage en 2020, ce bug a ressurgi et provoqué de nombreuses pannes. 14 000 parcs-mètres touchés à New York, bug en série dans un jeu vidéo de catch, problème d'horloge dans des caisses enregistreuses en Pologne. C'est un chaos somme toute modeste qui nous pousse à nous demander pourquoi le bug de l'an 2000 revient en 2020. La réponse est à chercher du côté d'une technique de mise à jour baptisée Année Pivot, utilisée par les développeurs pour contourner le bug de l'an 2000. Beaucoup de ces développeurs avaient choisi l'année 2020 comme année pivot. En d'autres termes, les données produites entre 00 et 20 étaient considérées par le système comme postérieures à 2000. Quant aux données produites entre 20 et 99, elles se rapportent au siècle précédent et dans ce cas 1920. Les développeurs de l'époque ne pensaient pas à mal, ils avaient juste un peu surestimé la progression des systèmes informatiques.
Et en bref, dans le journal des sciences cette semaine, il a été question des tyrannosaures nains qui n'ont jamais existé. Nous avons parlé également de cette épidémie de pneumonie qui touche une soixantaine de personnes en Chine et dont on ne connaît pas encore l'origine. Et en ultra bref, Antoine, bien justement, on a des nouvelles de ce virus.
Oui, cette épidémie serait causée par un nouveau coronavirus dont les chercheurs chinois affirment désormais avoir entièrement séquencé le génome. Reste maintenant à comprendre pourquoi il est différent des autres coronavirus humains et à découvrir l'espèce animale qui est à l'origine de sa propagation à l'homme. Quant à trouver un traitement, on n'y est pas encore. En ultra bref toujours, l'espadon chinois est officiellement la première espèce animale à disparaître. 10 jours à peine après le début de l'année, c'est triste. Côté bonne nouvelle, les chercheurs viennent de découvrir 5 nouvelles espèces d'oiseaux chanteurs en Indonésie. Enfin, un nouvel institut de recherche scientifique vient de voir le jour en France. Il s'agit de l'INRAE, issu de la fusion entre l'INRA, l'Institut de recherche agronomique, et de l'IRSTEA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.
Et on termine comme chaque semaine ce journal des sciences avec la rubrique de sciences improbables. Et cette semaine, une nouvelle peu ragoûtante à vrai dire, encore moins que lire l'avenir dans les ongles de pied. Une corne de dragon qui pousse dans le dos d'un homme.
N'allez surtout pas voir les photos sur internet, je vais le faire pour vous. Et ma tolérance, certes très faible aux images gore, a volé complètement en éclat. Un homme âgé de 50 ans présente depuis 3 ans une excroissance dans le bas du dos de 14 par 6 par 5,5 cm. Il s'agit de ce qu'on appelle une corne cutanée, autrement dit une excroissance tumorale de l'épiderme qui doit, dès qu'elle apparaît, faire immédiatement l'objet d'une analyse histologique pour déterminer s'il s'agit d'une tumeur maligne. Après ablation et l'étude de cette excroissance, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un carcinome épidermoïde, le deuxième cancer de la peau le plus fréquent après le carcinome basocellulaire. Les médecins ont été les premiers surpris qu'un tel cas soit passé entre les mailles du filet malgré les campagnes de prévention. On ne le dira donc jamais assez, si vous ne voulez pas avoir de corne de dragon, protégez-vous du soleil.
Oui, surtout que évidemment on vient de poster le lien vers l'étude sur le.
Désolé.
Voilà, c'est vu. Ce qui a été vu ne peut pas être dévu, comme
bon
on dit.
Week-end.
Et merci beaucoup Antoine. On vous retrouve la semaine prochaine.